With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Binge Audio.
On ne sait jamais vraiment comment les histoires font pour arriver jusqu'à nous. Ce n'est jamais une question de hasard, tout au plus de concours de circonstances, mais quand elles nous parviennent, on sait juste que c'est le bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. L'histoire que nous allons vous raconter a plusieurs débuts. Elle commence dans le désert tchadien il y a près de 50 ans avec la douleur de la mort. Elle commence aussi au Cambodge, en 2001, à la terrasse d'un hôtel au bord du Mékong. Elle commence enfin, il y a quelques mois, quand elle est arrivée à nous après un long voyage via le Canada. Son auteur s'appelle Emmanuel Cortadelas. Il y raconte la mort de son frère, Bertrand, en 1971, alors que ce dernier était militaire au Tchad et sous le commandement du général Cortadelas, le père de Bertrand et Emmanuel. Son texte, il l'a d'abord écrit pour sa famille, il y a quelques années maintenant. Mais il y a des récits qui débordent bien au-delà des marges pour vivre leur propre existence. Ce récit déborde parce qu'il nous concerne toutes et tous. Ici, il n'est pas seulement question de conflits géomilitaro-politiques qui peuvent nous sembler obscurs ou loin de nous. Non. Dans cette histoire, il est simplement question de sentiments universels, de deuil, de souvenirs, de fierté, d'orgueil, de mensonges et de non-dits. Cette histoire est une quête de vérité, et c'est ce qu'on va tenter de vous raconter. Moyunga 71, une série de David Carzon réalisée par Quentin Bresson. Prologue.
Ce 22 janvier 1971, un hélicoptère Sikorsky H-34 de la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre française, jaillit de la fosse de Bardaï, extrême nord du Tchad, près de la frontière libyenne, qui est depuis quelques mois sous administration spéciale militaire franco-tchadienne. Bardaï est un oasis, entouré de falaises claires de 300 mètres de hauteur, en surplomb sur les quelques bâtiments en dur de l'administration et sur des dizaines de tentes de nomades, toubous et autres. Quelques palmiers. Le jour est levé depuis une heure déjà. Le soleil chauffe à peine les plats-bords des gigantesques socles rocheux environnants. Il n'atteint pas encore le fond des dépressions et des canyons. Bardaï porte bien son nom, froid en arabe. On grelotte au poste militaire, au creux de la guelta encore à l'ombre. Quelques fumées de feu de bois, sur lesquelles chauffent de petites théières en métal émaillé coloré, montent droit dans l'air. Pas de vent autour du poste militaire empisé par pin. Et des bêtes, dromadaires, ânes, chèvres, immobiles, transies dans ce matin d'hiver, certaines allongées sur le sable. Un autre H-34 suit, juste derrière, ainsi que deux avions Sky Raiders AD-4. Des modèles éprouvés, à hélice et moteur central unique, très adaptés au maraudage dans ces reliefs d'apocalypse. Les avoir en appui-feu dans une opération difficile est un grand avantage, en temps normal. Le ruban de la piste d'avion de Bardaï, en terre compactée, est juste assez long pour eux, à condition de décoller aux heures fraîches du matin, quand l'air est suffisamment porteur et qu'il n'y a pas encore trop de remous de chaleur. Le soleil pose ses reflets d'acier sur leur carlingue brillante. L'air est d'une pureté extraordinaire. Les AD-4 partent devant, un peu en hauteur. Les hélicos suivent en épousant les mouvements du sol à basse altitude. Des paysages de cauchemar s'enchaînent sous eux. monde minéral total, sans repos pour l'œil, brûlé par le soleil sans filtre de ses 3000 mètres d'altitude, explosé par les volcans, jonché de roches énormes lancées comme des milliers de dés sur un plateau par un tout-puissant joueur céleste, trépané par le vent, abrasé par les sables, perforé par les eaux qui furent abondantes ici, il y a des millénaires. Depuis le plateau, au ras duquel passent les hélicos, aucune vie, humaine ou animale, n'est perceptible. Les toubous et leurs bêtes vivent au fond des vallées, tranchées dans la masse montagneuse comme au couteau. Ces blessures serpentent, lèvres ouvertes au soleil, sur des dizaines de kilomètres de long, larges de quelques mètres seulement, profondes de quelques centaines souvent. L'érosion qui les a creusées, au cours des siècles, ne s'est jamais faite en ligne droite. La faille tourne et tortille, droite et de gauche, mais aussi du sommet vers le bas, comme une cheminée vrillée. Du haut, on ne peut pas voir le fond. Du fond, on ne voit pas le ciel. C'est juste une lueur là-haut. En cette matinée de janvier 71, les deux hélicoptères, en plus de leur équipage, pilote et copilote, mécanicien, radio, ont embarqué 8 hommes chacun. Deux patrouilles de paramarines emmitouflées dans leur treillis, chèches autour du cou, essayant de se protéger du froid. Les armes, munitions engagées, sont sur les genoux. Un renseignement des troupes qui quadrillent la zone au sol a fourni l'emplacement approximatif d'un regroupement armé d'une cinquantaine d'hommes. Le groupe a été repéré sur les plateformes rocheuses sortant d'un éboulis, appelé Moyonga par les guides locaux. Les toubous, eux, n'ont pas d'équipement radio, et les conversations peuvent se faire en clair. Les Français se croient à l'abri. Ce monde de pierre, c'est celui des nomades, toujours en lutte, plus ou moins vive avec le pouvoir central du pays dont ils dépendent, qu'il ait été turc, italien, libyen, français, ou qu'il soit tchadien comme à présent depuis l'indépendance, il y a 10 ans. Ils sont les seuls à connaître parfaitement l'entrelac de ces gorges fraîches qu'ils sillonnent en permanence à dos de leur dromadaire. Ils sont les seuls à se diriger sans erreur dans ces labyrinthes déserts. Ce matin, du fond de la gorge, ils sont montés sur l'un des rochers plats de Moyonga, avec leur vieux fusil italien de la dernière guerre, des stati, rustiques mais résistants aux conditions du pays, comme eux. En avant-garde, les avions repèrent leurs colonnes progressant à travers les éboulis. On dépêche d'abord les hélicoptères. Paramètres d'approche, description des lieux tels que donnés par les Sky Raiders. Les deux H-34, eux, se mettent en position à quelques centaines de mètres l'un derrière l'autre. Ils préparent leur atterrissage sur un plateau voisin de celui où a été repéré le groupe ennemi. De là, les paramarines pourront le prendre sous le feu de leurs armes. Exécution. Le premier hélico arrive sur le plateau. Tout semble parfaitement préparé. Quand soudain, on entend l'appel angoissé d'un des AD-4 qui survole la zone. Il signale sur les ondes que l'hélicoptère va atterrir au beau milieu des forces ennemies. Il leur hurle de décrocher. Il est déjà trop tard. Le pilote de l'hélico ne peut plus inverser la manœuvre en cours, au risque de décrocher et de s'écraser. Les dés sont jetés. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il faut débarquer et nettoyer la place le plus vite possible. L'hélico se pose. La bataille de Moyonga commence. Derrière, dans la carlingue, le sergent-chef Cortadelas est à la manœuvre et conduit la patrouille. Il indique à ses gars qu'ils doivent y aller et accrocher, comme on dit dans le jargon. Porte ouverte, il saute avant que l'hélico ne soit complètement stabilisé. Une balle le touche en pleine tête. Il s'effondre avant d'avoir fait un pas. Le soldat Demiras se rue derrière lui, en lévitant. Une balle le frappe en pleine poitrine. Il s'écroule au sol, secoué de spasmes. Les 6 autres s'éjectent de la cabine, un à droite, un à gauche, comme à l'entraînement. Plus aucun n'est touché. Ils se mettent en position, derrière les rochers épars, et engagent le feu. L'hélico repart. Quelques balles dans ses tôles, mais rien de vital touché. L'autre H-34 va se poser sur le plateau voisin. Le bon, cette fois. Dès que le feu est nourri, les toubous décrochent. Les paramarines les poursuivront toute la journée. s'occupe des blessés. Demiras est déjà mort. La balle a sectionné l'aorte et il s'est vidé de son sang en quelques minutes, le temps de l'engagement. Cortadelas vit encore, le crâne embouilli. On lui fait un pansement de fortune, quelques piqûres, une perf d'urgence, et l'hélico revient pour l'emmener tout de suite à Faya-Largeau, et de là, à Fort-Lamy. Un trajet qui prendra quelques heures. Les paramarines réduisent le groupe Toubou à plus grand-chose. Une vingtaine de morts et beaucoup d'armes prises. Plus aucune perte côté français. Bertrand Cortadelas meurt le lendemain, 23 janvier 1971, en milieu d'après-midi, à l'hôpital militaire de Fort-Lamy. En accord avec ses parents, les docteurs le débranchent. Les fonctions vitales peuvent encore le soutenir, mais le cerveau est broyé, menu. Et ce grand balèze, tout physique, aurait vécu le reste de sa vie comme un mort-vivant dans une petite voiture, au mieux.
Bertrand Cortadelas venait d'avoir 24 ans. Pour son frère Emmanuel et toute sa famille, il est mort pour la France. Comme tant d'autres militaires tombés dans des théâtres d'opérations extérieures dont on peine parfois à percevoir l'utilité. Pour Emmanuel, il a fallu apprendre à vivre avec ce manque. Sans se douter que bien des années plus tard, le hasard placerait sur sa route une autre version de l'histoire. Mais là, c'est lui qui va nous le raconter.
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.